pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, l'histoire d'un succès planétaire, celui de Pop It.
La demande était tellement grande que le prix du silicone, qui est de matière brute, a triplé.
Rencontre avec le Québécois derrière le jeu pour enfants devenu viral, David Capon. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, la frénésie immobilière va-t-elle se poursuivre cette année?
Le marché est encore sous pression.
Je m'appelle Laurent Thérien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Si vous avez des enfants, vous connaissez Pop It. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez probablement vu ce produit-là quelque part sur les tablettes. Pop It, c'est un jeu devenu viral dans lequel tout ce qu'on a à faire, vraiment, c'est appuyer sur des petites bulles en silicone, un peu comme du papier bulle. C'est le succès viral de 2021, un succès planétaire pour un produit, somme toute, disons-le, simple. Mais on parle de millions d'exemplaires vendus à travers le monde, certains élevés au rang d'objets de collection, et surtout des milliers de produits contrefaits vendus, notamment sur Amazon. Derrière ce produit viral se cache une belle histoire, celle d'un entrepreneur installé au Québec depuis une trentaine d'années. Il s'appelle David Capon, c'est le fondateur de Foxmind, une entreprise qui commercialise des jeux de société et des jeux pour enfants. Cette semaine, je vous propose une discussion sur la viralité et les nombreux problèmes qu'elle engendre. Bonjour David, bienvenue pour votre info.
Bonjour Laurent, c'est un plaisir.
David, tu as créé une sensation mondiale, 10 millions de copies seulement en Amérique du Nord en 2020. J'imagine que les chiffres sont encore plus impressionnants en 2021. Mais on va partir de la base, si tu me permets, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Pop It. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Il s'agit d'un jeu joué en silicone. Il a été inventé en 1974 par un couple israélien qui s'appelait Theo et Ora Koster. Et Theo est un collègue d'école de Anne Frank. Et heureusement, il n'a pas subi le même sort et il a réussi à s'échapper et partir. Et en 1955, il s'est rendu en Israël où il a rencontré sa femme qui s'appelait Ora. Ensemble, ils ont inventé plusieurs des jeux et des jouets. Et en 1974, Ora a eu un rêve je ne peux pas le dire autrement, d'un champ de dessin. Et elle s'est réveillée et elle a dit à Théo, j'ai eu ce rêve-là et je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire un produit basé sur cette notion. C'est assez bizarre. Et Théo avait le côté un petit peu, disons, pratico-pratique dans le couple et qui s'est mis, il dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Il a mis le concept par-dessus un jeu de mathématiques. Et ils n'ont pas réussi à le vendre malgré qu'ils étaient connus dans l'industrie et ils essayaient de passer ça à des grandes compagnies de jeux avec qui ils étaient très familiers. Mais ça a été refusé jusqu'à 2008 où je les ai rencontrés. Ils m'ont montré le produit et moi, immédiatement, j'ai accroché. Ce qui fait le succès de ce jeu-là, c'est qu'il a marié plusieurs éléments ensemble. Il y a le côté fidget, le côté, je dirais presque émotif.
Ouais, satisfaisant.
Le plaisir émotif satisfaisant de peser sur ce but-là. Mm-hmm. Oui, c'est certain.
Là, depuis, David, clairement, tu avais vu juste en rachetant les droits de ce jeu-là puis en le commercialisant, vous avez eu un succès immense, surtout grâce aux médias sociaux, mais surtout grâce à TikTok, qui est peut-être moins utilisé par notre auditoire, mais qui est très, très populaire auprès des plus jeunes générations. Tellement que, je le disais, là, le produit est devenu viral à travers le monde. Est-ce que tu t'attendais à ce succès-là?
Non. Absolument pas. J'espérais que le produit va plaire comme jeu. Et au départ, ce n'était pas un succès monstre, mais ça a commencé à petit à petit à vendre, surtout parmi des éducateurs, des gens qui vendaient des produits et des services avec des enfants et avec de certains troubles d'attention, d'anxiété, autisme. Et il y avait de plus en plus un répandu dans ce milieu-là de produits. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, on a réussi suite à un petit peu un flou, à le faire rentrer chez Target. C'est parce qu'on a travaillé avec une compagnie qui devait rentrer dans un seul coup 15 produits chez Target. Ils cherchaient désespérément des produits additionnels et ils ont décidé de rentrer ce produit-là comme ça, voir qu'est-ce que ça va donner. Et pour combler un trou un petit peu dans leur display, comme on dit. Et avant TikTok et avant tout, lorsque c'est rentré chez Target, ça a déjà commencé immédiatement à vendre. Les médias sociaux ont définitivement fait une explosion nucléaire d'un potentiel qui était déjà là.
Très intéressant.
Donc, les gens rentraient sur le site de target.com et commençaient à chercher tout le temps Pop it, Pop it, Pop it, Pop it. Et les gens de chez Target, ils ont fini l'année avec un taux de produits manquants, je ne sais pas comment va être le terme en français, de environ 70%. Ça veut dire, ils étaient hors stock 70% du temps en 2019.
Je le disais, en 2020, c'est 10 millions de copies seulement en Amérique du Nord. Peux-tu nous donner une idée de tes chiffres en 2021, juste pour qu'on voit l'engouement autour de Pop It?
Je ne veux pas rentrer dans le chiffre total, mais je dirais que c'est environ le double de.
Mais on est
Donc,
clairement dans la fenêtre de l'hypercroissance ici, là. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Première question sur la viralité pour toi. À quel point est-ce que c'est difficile d'avoir un produit qui a du succès? Je m'explique. Approvisionnement, logistique, ça ne doit pas toujours être facile d'avoir un produit qui fonctionne autant.
Oh, ça présente énormément de défis. Mais d'abord, pour parler de côté viral, et ce côté-là explosif, d'une croissance explosive, je ne crois pas qu'il y ait une formule magique pour ça. Et tu dois avoir le bon produit qui pèse sur les bons boutons chez le consommateur. Et tu dois avoir aussi un conjoncture, je ne sais pas, conjuncture en anglais, conjonction des autres éléments et en même temps. Dans notre cas, c'était aussi la pandémie. Donc, la nature du produit est fait qu'il a un côté calmant, un côté où tu peux jouer avec ça tout seul. Et dans la pandémie, il y avait beaucoup des jeunes pour qui ce produit-là était très intéressant.
Ouais, une porte de
Ils
sortie un peu,
étaient,
hein.
oui, dans des familles où il y avait seulement deux enfants ou deux parents et un enfant, c'est très rapide à jouer, donc tu peux jouer ça à deux. Il est aussi très coloré, donc il y avait aussi un élément de collection qui s'est mis
Ah.
à s'implanter dans ce milieu-là de ce jeu-là. Donc il y a aujourd'hui des enfants qui ont entre 5 et 50 et Pop It chez eux. Donc, il y a définitivement, il y a aujourd'hui à travers l'Amérique du Nord, mais aussi ailleurs, de Pop It Parties, où les enfants arrivent avec leurs différentes versions de Pop It et ils y font des échanges, les produits ont une certaine cote. Donc, il y a beaucoup des éléments qui sont mis ensemble ici. Il y avait le côté collection, il y avait le côté jouabilité, il y avait le côté, il y a aujourd'hui des portefeuilles en forme pop-it, il y a même, j'ai vu des boucles d'oreilles avec des pop-it par-dessus, j'ai vu même chez les femmes des ongles qui ont de mini pop-it là-dessus, ça complètement c'est devenu un fashion, ce produit-là qui pop a traversé plusieurs frontières et est rendu à complètement différentes
Mais c'est intéressant que tu
et
dises ça, David,
catégories.
parce que c'est vrai qu'il y a un côté buzz dans tout ça, puis que, bon, manifestement, même d'autres produits qui ont eu du succès, qui ressemblent sans que ce soit le même produit, mais qui ont eu la même courbe, je pense au Tamagotchi dans les années 90, je pense aux
Oui.
Beyblades dans les années 2000. Oui, effectivement, les fidget spinners, tous ces jouets-là qui marquent une époque, puis qui marquent l'enfance de bien des gens. Il y a un aspect buzz dans tout ça. Comment on fait pour le maintenir dans le temps? Je veux bien qu'il y ait un caractère international à Pop It. Comment on fait pour faire durer ça?
Je crois que le produit va rester là à vie, dans le sens que les quantités vont baisser de façon significative, mais ce produit-là va rester. Mm-hmm. Et donc, je ne crois pas qu'il y aura un moyen de maintenir ça dans les quantités fous où c'est rendu. Une chose que peut-être ton audience ne connaît pas, mais la demande était tellement grande que le prix du silicone, qui est de matière brute, a triplé.
Incroyable.
En 1921. Et je ne peux pas dire que c'est que à cause de Popit, mais moi, je soupçonne qu'une grande partie de cette demande-là a été créée par les dizaines de milliers des producteurs qui sont mis à commencer à produire le produit ou surtout vendre.
Ouais. Les copieurs, il y en a beaucoup. Toi, tu disais avoir fait à peu près le double de tes ventes de l'année passée, mais c'est rien comparativement aux ventes mondiales de Popit. Est-ce que tu as perdu le contrôle de ton invention?
On peut dire, on est un petit peu comme les jeans Levi's. Oui, les jeans Levi's, c'était les premiers jeans, mais après ça, le marché a fait en sorte qu'ils ont commencé à sortir de chemises Levi's, on a commencé des draps faits en jeans, des chemises faits en jeans, des sacoches faits en jeans. Donc, tu ne peux pas tout contrôler. Tout ce que tu peux espérer, c'est être reconnu d'être le Levi's de ce produit-là.
Mm-hmm,
maintenir le côté, c'est l'original, c'est l'authentique, et avec ça, maintenir une certaine idée ou certaines connotations de qualité, de top brand et d'originalité.
Ouais. Donc, mais ça me surprend ce que tu dis, David, parce que dans un article qui a été publié récemment, tu disais vouloir y aller beaucoup plus férocement là, contre la contrefaçon, voire aller vers des poursuites. Tu rappelais même le phénomène du cube Rubik dans les années 80 qui avait vécu une trajectoire similaire, puis finalement, bien, il n'y en a plus qu'un seul cube Rubik aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté dans tes prochaines étapes d'aller férocement contre la compétition quand même? Ça reste que c'est des millions et des millions de dollars de ventes manquées, là.
Absolument. Je veux nuancer un petit peu. Donc, on doit faire la différence de ce que nous, on peut réclamer comme propriété intellectuelle. On peut réclamer le nom Pop It ou Go Pop, dépendant du marché où on vend le produit.
Ouais.
Et on peut réclamer certains designs industriels pour lesquels on a des brevets de design industriel. On peut réclamer certaines choses, mais on ne peut pas réclamer tout. Donc, on a fait sortir un génie out of the bottle, comme on dit en anglais.
Ouais.
Et on ne peut pas le faire entrer, on ne peut pas le dire, il nous appartient. Mais on doit un petit peu essayer de repatrier ce qui nous appartient. Ça veut dire, on a mis un certain type de produits, certains tripes qui sont protégés, certaines protections qu'on a mis sur place. On doit mettre des efforts à les renforcer.
Mm-hmm. Il vient où le moment où on se dit ça vaut la peine d'aller faire la bataille?
C'est une décision qui est prise quotidiennement cas par cas. C'est certain qu'on ne peut pas... Bien, alors je vais vous donner un petit peu c'est quelle stratégie on utilise. D'ailleurs, on ne peut pas aujourd'hui agir sans utiliser la technologie. Donc, on doit diviser, nous, les infractions en deux catégories. Ceux qui sont un petit peu dans le monde online, et dans le domaine de brick and mortar, dans les magasins. Dans le domaine de online, on est en train d'utiliser des technologies qui font affaire avec l'intelligence artificielle, qui cherchent sur l'Internet des produits qui ont le potentiel d'être des contrefaçons. On a réussi à identifier, assoyez-vous bien, 150 000 listings.
Incroyable.
150 000 listings des gens qui utilisent nos propriétés intellectuelles. Ces compagnies-là réussissent à, je dirais, dans 80% à faire enlever ces listings-là sur l'Internet.
Okay.
Donc, ça, c'est un côté et on travaille avec certains bureaux d'avocats aux États-Unis que leur spécialité, c'est aller contre des commerçants en ligne qui vendent leurs produits dans le marché américain. Et aux États-Unis, ils ont des méthodes assez agressives et efficaces pour combattre les contrefaçons online.
Mais David, ça doit vous coûter à Foxmine une fortune en frais d'avocat, gérer tout ça?
C'est exact.
Ça prend combien de ton temps sur 100% de ton temps? Là, combien de temps passes-tu à gérer des enjeux légaux?
Je dirais que malheureusement aujourd'hui, c'est au-delà de 50%.
Mais c'est d'une tristesse en ça quand même, parce que je veux dire,
absolument,
c'est 50% de ton temps que tu n'es pas en train de passer à développer le prochain pop-it, là.
C'est exact. Et pas seulement ça. Je n'aime pas ça. J'appelle ça de l'énergie un petit peu noire, parce que ce n'est pas une énergie créatrice.
Ouais.
C'est une énergie où tu te bats pour te défendre. Mais c'est notre réalité.
Philosophiquement parlant, là, ça montre aussi un peu la limite de de la mondialisation puis des systèmes qu'on a en place, parce que en toute honnêteté, tu n'arriveras jamais à arrêter le flot de fraudeurs, puis le flot de ceux qui produisent ces produits-là, probablement à très, très, très faible coût en Chine. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu utopique là-dedans, non?
Absolument. C'est ce qui était frappant, c'est aujourd'hui la vitesse entre le fait que tu mets en place une idée et que tu commences à jouer avec des prototypes et le moment où des copies exactes arrivent. Quand j'ai commencé dans ce domaine-là, on parlait des années, parfois des mois. Aujourd'hui, on commence à baisser ça à des jours.
Wow! Ça veut dire que la zone pendant laquelle tu as l'exclusivité de ton produit puis que tu peux maximiser tes ventes, elle est faible en tabarnouche.
Elle est très, très faible. Donc, tu dois t'assurer que tu t'encadres par plusieurs autres manières de te protéger.
Mm-hmm.
Tu dois avoir les marques de commerce, tu dois avoir les brevets de design, tu dois avoir d'autres manières que lorsque les copies arrivent, ils vont arriver extrêmement vite, tu auras les moyens au moins avoir des munitions pour aller contre
battre,
eux.
Ouais. Sortons de l'énergie noire, telle que tu l'appelles, et allons dans celle qui est un petit peu plus, j'imagine, agréable pour toi. J'aimerais qu'on termine cette conversation-là sur le jeu, en particulier sur la renaissance, si tu veux, des jeux de société ou des jeux physiques. C'est une impression, dis-moi si elle est vraie, mais mon hypothèse, c'est qu'il y a eu une recrudescence marquée de la volonté des gens de jouer avec quelque chose de concret, de physique. Comment t'expliques ça?
C'est de nouveau, c'est couplé avec l'effet pandémie. Les gens se trouvaient en famille, en couple chez eux. Et ils avaient marre à regarder Netflix, les nouvelles, leurs tablettes et tout ça. Et à un moment donné, la volonté de se mettre ensemble, avoir de quality time, comme on dit,
ouais,
ensemble en famille, amène que les gens ont commencé à expérimenter avec des jeux old-fashioned, d'anciennes manières, des jeux de société. Et tout à coup, tu vois que ça amène énormément. Ça amène le côté social, ça ajoute aux enfants la possibilité de développer de l'intelligence émotionnelle. Il y a tellement d'effets bénéfiques au jeu réel de société qui ne peut pas être comblé aujourd'hui par un jeu vidéo ou un jeu sur un autre jeu électronique.
Mm-hmm.
Donc, je crois qu'il y a tout à coup une réalisation par le marché que c'était comme un média qui a été oublié. Et donc, ce n'est pas seulement pour Foxmind. Je sais ça qu'il y a. Il y a toutes les compagnies dans le jeu ont subi une croissance assez importante.
David, tu réfléchis, tu commercialises plusieurs jeux. Tu as manifestement compris ce que le marché voulait avec Pop-It. Quel est, selon toi, le prochain buzz?
Oh, je ne peux pas avoir une réponse pour ça. Si je le savais, je serais un prophète.
Ah ben ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une seule chance, comme tu l'as eu avec Popit, de créer cette viralité-là, ou c'est possible de le reproduire? En gros, est-ce que ça a été un coup de dé?
Je ne peux pas enlever le côté et chance dans ça. Ça ne peut pas. C'est, comme je dis, c'est une conjonction de la pandémie avec le type de produit que c'était, avec le prix de ce produit-là. Beaucoup d'éléments sont rendus ensemble. Je crois que on a des autres produits et c'était très important pour moi comme dirigeant d'entreprise à faire valoir à mon équipe de savoir Popit ne va pas rester là pour toujours et on doit continuer à développer des produits qui sont fidèles à notre image, à ce que Foxmind est. Et je crois qu'on a certains produits qui vont être à la hauteur de ce que Popit représente, mais ça ne sera pas en même quantité. C'est certain. Mais j'invite ton auditoire d'aller sur notre site regarder et voir s'il y a des autres choses qui pourront l'intéresser autant. Ça m'intéresserait de savoir.
Super. David, ça a été une très belle rencontre. Je suis très heureux d'avoir fait cette entrevue-là. Je te remercie de ton temps. Et puis évidemment, j'inviterais bien les gens à aller acheter des Popit, mais je pense que ceux qui devaient, ton public cible les a déjà. Merci d'avoir été à Pour Votre Info cette semaine.
Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Bégin.
Bonjour Hélène Bégin, comment vas-tu?
Bonjour Laurent, ça va très bien toi-même?
Ça va bien, merci beaucoup. Content qu'on parle du marché immobilier ensemble aujourd'hui. On en a parlé l'année dernière, mais je pense qu'il y a une mise à jour qui est très certainement due. On sait que le marché a terminé en force. 2021 a été une année exceptionnelle sur le marché de l'immobilier résidentiel. Est-ce que ça va rester comme ça en 2022? Est-ce que le marché va rester sous pression?
Oui, tout à fait. Là, après des hausses de prix d'environ 20 % au Canada et au Québec l'an dernier, on pense que le marché va rester très actif au moins jusqu'à la fin du printemps 2022. Il y a deux raisons principales. D'une part, la présence accrue des investisseurs étrangers au Canada qui accentue le manque d'habitations disponibles, donc des achats qui sont effectués comme objectif de placement et non d'habitation. Mm-hmm. Et c'est une étude de la Banque du Canada très récente en janvier qui établit qu'environ 20 % des achats au pays sont établis dans cette proportion-là. Et dans certaines villes, c'est très élevé, comme Ottawa, Gatineau, environ 25 % propriétés... auraient été achetés par des investisseurs étrangers. Mmh. Toronto suit de près. Montréal s'approche 20 % Donc, évidemment, avec une présence accrue d'acheteurs, disons, un peu plus spéculatifs, il reste que la demande d'habitation est quand même très forte de la part des propriétaires occupants, donc des gens comme vous et moi qui veulent habiter une maison. Donc, évidemment, ce qui arrive, c'est que les acheteurs s'empressent encore plus compte tenu de la remontée des taux hypothécaires là, qui va s'accentuer au fil de l'année. Déjà, depuis novembre, les taux fixes ont augmenté. Là, ça suit un peu les marchés obligataires, l'évolution du marché financier. Donc, ça a déjà commencé à augmenter. Mm-hmm. Pour les taux variables, bien, on attend avec impatience la prochaine décision de la Banque du Canada. En fait, les prochaines décisions de la Banque du Canada, parce qu'à chaque fois que celle-ci augmente le taux directeur, les taux variables augmentent dans les mêmes proportions. Mm-hmm. Donc, actuellement, un taux variable autour de 1,70 qui pourrait terminer l'année autour de 2,5 % à la fin 2022. Ça fait en sorte que les acheteurs voient venir ces hausses de taux, donc se dépêchent pour évidemment profiter des taux extrêmement bas depuis, en fait, un an ou deux, là.
Ça me surprend, Hélène. Je ne remets pas du tout en question la validité des chiffres de la Banque du Canada, mais j'étais convaincu, on disait pendant quelques années que c'était un phénomène marginal, les investisseurs étrangers. Mais là, à 20-25 %, on ne parle plus d'un phénomène marginal, là, on parle d'un phénomène qui peut clairement avoir une influence sur la quantité de propriétés disponibles dans certains marchés. Tu nous parlais d'une probabilité là, plutôt forte d'une hausse des taux hypothécaires cette année. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est affecté de la même façon s'il y a une hausse des taux.
Effectivement, tout dépendant, je pense que les nouveaux acheteurs, ceux qui, en fait, qui magasinent actuellement pour accéder à la propriété, ou ceux qui ont acheté récemment avec un prêt hypothécaire assorti d'un taux d'intérêt variable au creux l'an dernier, évidemment, vont être plus affectés parce que, comme je le mentionnais, chaque hausse de taux de la Banque du Canada, automatiquement, le taux variable va être ajusté. Et selon la SCHL, environ 40 % des nouveaux prêts hypothécaires à l'été 2021 ont été signés à taux variable. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde qui vont devoir encaisser les hausses de taux. Ceci dit, en général, les ménages devraient être en mesure de faire face à des augmentations de paiements mensuels, puisque le gouvernement fédéral exige que le montant du prêt accordé par les institutions financières là, au départ, que ça soit calculé avec un taux minimal de 5,25 %.
Oui, le fameux stress test.
Exactement. Donc, depuis et ça, c'est le taux qui a été établi le 1er juin dernier. Donc, évidemment, cette mesure-là vise à donner la marge de manœuvre nécessaire lorsque les taux remontent jusqu'à ce niveau. Mm-hmm. Nous, on ne pense pas qu'ils vont augmenter à ce point-là cette année. Mais ça donne une idée qu'en général, oui, peut-être certains vont avoir de la difficulté à absorber les hausses de taux d'intérêt, mais généralement, avec le test qui est effectué à l'octroi du prêt, ça devrait protéger une grande partie des emprunteurs. Mmh. Et pour ceux qui, les emprunteurs qui étaient déjà propriétaires depuis un certain temps, dont l'hypothèque arrive à échéance et qui est à taux fixe, ne sont pas tous perdants. Je pense qu'il faut faire la distinction. Par exemple, ceux qui ont signé un taux fixe 5 ans en 2017, que ça vient à échéance en 2022, le taux hypothécaire 5 ans devrait être assez semblable lors du renouvellement, donc autour de 3-3,5 % d'ici la fin de l'année. Donc, pour eux, ça va faire peu de changements. Et pour ceux qui ont signé un très bas taux fixe, soit en 2020, en 2021, là, au plus fort de la pandémie, lorsque les taux étaient à leur plus bas, lorsqu'ils vont renouveler, tout dépendant de leur terme, c'est 1 an, 3 ans, ils vont assurément le faire avec un taux plus élevé. Donc, ça dépend à quel moment on a contracté notre prêt, à quel moment celui-ci arrive à échéance. Donc, c'est pas nécessairement tous les emprunteurs qui vont avoir des hausses de taux d'intérêt au renouvellement.
Mm-hmm. Puis, tu sais, on dit le stress test, c'est là pour protéger les futurs acheteurs ou les gens qui renouvellent leur hypothèque. Cela dit, ça reste de la théorie pour la plupart des gens qui passent ce test-là. Quand le montant qui est débité du compte, lui, change pour vrai, là, ça devient une autre paire de manches, puis c'est pas tout le monde qui a prévu dans son budget une hausse des taux hypothécaires encore probablement. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, Hélène, en 2022, une baisse des prix des maisons? Ça viendrait peut-être compenser un peu la remontée des taux hypothécaires, ou là, je fabule puis je suis dans un autre univers?
En fait, c'est très peu probable à court terme. On discutait tout à l'heure que l'offre de maisons était insuffisante pour combler la demande, qui restait très forte actuellement. Donc, les prix vont continuer de monter. Par contre, je pense que c'est peut-être pour 2023 qui sera surveillé, parce que le degré de surévaluation est déjà élevé dans plusieurs marchés au pays. Je pense qu'il y a une formation de bulle immobilière qui est en cours. Et ça augmente les risques d'ajustement par la suite, peut-être à partir de 2023. Là, si la demande s'affaiblit de façon importante ou que plus de propriétés sont mises en vente. Mais pour 2022, pour cette année, le marché est encore sous pression. Il y a encore beaucoup d'acheteurs qui sont sur le marché, peu de propriétés à vendre. Donc, c'est peu probable qu'on ait une baisse de prix cette année.
Hmm. Merci, Hélène, de ce tour d'horizon toujours très pertinent, très utile aussi. Puis on se reparle dans quelques semaines.
Merci. Au revoir.
Bon. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Philippine de Tinguy est à la coordination et à la recherche de Pour votre info. Et Alexandrine Chappet s'occupe de nos médias sociaux. Notre musique a été composée par le musicien britannique Luke Melville. Tous nos épisodes sont disponibles pour réécoute sur Apple Podcast et sur Spotify. Et si vous aimez Pour votre info, prenez quelques petites secondes pour nous donner 5 étoiles. Ça fait vraiment toute la différence. Je m'appelle Laurent Therrien. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.